Notre Père Céleste, nous avons tellement besoin de toi dans toutes les circonstances. Quand tout va bien, nous avons besoin de toi. Quand tout va mal, nous avons besoin de toi. Quand nous sommes nombreux à l'Église, nous avons besoin de toi. Et quand nous sommes peu nombreux, nous avons aussi besoin de toi. Et Seigneur, nous voulons te dire que nous avons besoin de toi tout le temps. Aussi maintenant, Seigneur, que tu puisses parler à nos cœurs par ta parole, qu'elle puisse nous faire grandir, nous édifier et accomplir l'œuvre par laquelle tu nous l'as envoyée, tu nous l'as donnée. Dans le nom de Jésus, amen. Amen. Alors la gloire de Dieu dans l'Église, numéro 5, dans l'Épître aux Corinthiens, le chapitre 12, on était dans le chapitre 12, qui commence ainsi. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Et donc, l'apôtre Paul veut instruire l'Église de Corinthe sur ce qui concerne les choses spirituelles. Alors, qu'est-ce que nous avons appris dans les 11 premiers versets? Cette phrase qui résume un petit peu, dans l'Église, Dieu se manifeste et œuvre par des dons utiles et variés que le Saint-Esprit accorde à chacun. Dieu se manifeste, ce n'est pas une idole muette, et il œuvre en faisant des dons utiles et variés qui sont accordés à ses enfants. Ensuite, 12-27, la dernière fois, nous avons vu que Dieu a créé l'Église à l'image du corps humain. Il est composé d'une multitude d'organes et il forme un tout, l'ensemble de ces organes. Pour autant, notre corps est plus que le rassemblement d'organes. Les enfants ont des puzzles avec les différentes parties du corps et elles sont là, puis ils vont essayer de reconstituer le dessin du bonhomme ou de la dame qui sont là en plaçant les pièces au bon endroit. Chaque pièce doit trouver sa place dans quelque chose qui est organisé. Mais ce n'est pas encore suffisant pour décrire ce qui relève du corps. En Genèse 2:7, il est écrit « L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. » Et il souffla dans ses narines et l'homme devient une âme vivante. Alors on va voir ce matin ce qui fait que l'Église est vivante et ce qui fait que elle est organisée. D'abord, peut-être ce sera l'organisation et après la vie de l'Église. Alors, 1 Corinthiens chapitre 12. Verset 27, et on va avancer jusqu'au chapitre 13, verset 3. Je chevauche un petit peu là, c'est peut-être pas ce qui est le plus naturel, mais voilà. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, deuxièmement, les prophètes, troisièmement, les enseignants, ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue et tous interprètent-ils? C'est une question, bien sûr. On place un nom derrière, bien évidemment. Et l'apôtre ajoute, aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer la voie par excellence. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, et si j'ai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Donc chacun a une position différente dans le corps de Christ, mais seulement l'amour doit nous animer. Une position différente dans le corps de Christ. Quand l'apôtre Paul présente ce texte, premièrement, deuxièmement, troisièmement, on pourrait penser qu'il fait une hiérarchie là, mais ça se contredirait avec ce qu'il a écrit juste avant, où il dit, en parlant du corps, les voilà les membres, les moins décents sont ceux qui ont le plus d'honneur. Alors, il faut plutôt voir quelque chose de, une organisation ou une structure que présente l'apôtre là. Et il commence premièrement par les apôtres, justement. Alors, on connaît surtout l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul. L'apôtre Jean un petit peu. C'est surtout d'eux dont il est question dans le livre des Actes et dans les Épîtres. Alors, on peut, je pense, cependant extrapoler ça aux douze apôtres. Il est écrit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force le témoignage de la résurrection du Seigneur, les douze. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Donc les quelques remarques que je vais faire maintenant, on peut dire qu'elles se rapportent, probablement étaient valables pour tous les apôtres. Donc c'était des personnes choisies et envoyées par Jésus. Hein. Paul cite Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ, et c'est ainsi qu'il commence sa lettre. Et ce sont d'abord des serviteurs. Hein. Il l'indique au chapitre 4, verset 1, qu'on nous considère tous comme des serviteurs de Christ. Premièrement, ce sont des serviteurs. Et moi, je comprends qu'ils ont reçu tous les dons dont Paul parle. Et il dit, concernant le dernier des dons, « Je parle la langue plus que vous tous. » Il va dire ça un petit peu plus loin, au chapitre 14. Et quand on voit le livre des Actes, on voit tous les prodiges qu'ils ont faits et tous leurs enseignements. Et on voit que vraiment, les apôtres étaient ceux qui, par excellence, avaient tous les dons. Ils sont aussi les méprisés du monde. Chapitre 4, verset 13. L'apôtre Paul dit, en parlant des apôtres, « Nous sommes les balayures du monde, le déchet de tous, complètement inconsidéré. » Ce sont aussi des référents incontestés dans tout ce qui concerne Jésus-Christ. Chapitre 15, verset 11. L'apôtre Paul affirme que ce soit eux, les autres apôtres, ou que ce soit moi, voilà le message que nous prêchons. Voilà ce que vous avez cru. Des référents, des personnes qui ont autorité dans l'Église, dans tout ce qui concerne les choses spirituelles. Mais aussi des personnes faillibles, qui restent des personnes qui sont imparfaites. Et Paul raconte le problème qu'il a eu avec Pierre à un moment donné dans le livre des Galates. Premièrement, les apôtres. Deuxièmement, les prophètes. Alors, quelques noms de prophètes nous sont donnés dans le livre des Actes, par exemple au chapitre 13, les prophètes qui sont des fondateurs. L'Ancien et le Nouveau Testament nous demandent d'examiner les prophéties pour voir si elles viennent bien de Dieu. Et donc, en ce sens, ils ont un rang, une position qui est moindre que celle des apôtres, qui eux font référence et font autorité. Alors le ministère de prophétie, on y reviendra au chapitre 14, je ne vais pas m'attarder dessus. L'apôtre Paul va en parler longuement. Troisièmement, les enseignants. Ça illustre bien ce que l'apôtre écrit, la part qui a été donnée à chacun. Parce que dans l'enseignement, il y en a de toutes sortes. Dans toutes les églises locales, ben, il y a les petits enseignants qui travaillent à expliquer, à partager la parole de Dieu. Et puis il y en a d'autres qui vont travailler dans les instituts de formation. Et puis il y en a d'autres encore qui ont des ministères qui vont toucher le monde entier. Ils écrivent des livres qui sont traduits dans une pléthore de langues. Et on peut aussi, en regardant en arrière, penser aux réformateurs, par exemple, ou à tous les pères de l'Église. Une part donnée à chacun, dit l'apôtre Paul. Le fait qu'il soit placé avant ceux qui font des miracles, ceux qui font des guérisons, le fait qu'il soit placé avant, ça indique le poids supérieur de la parole de Dieu par rapport aux expériences de miracles ou de guérisons. La parole de Dieu passe en premier sur toutes les expériences. Premièrement, deuxièmement, troisièmement. Et puis il y a les autres membres avec leurs dons. Et donc l'apôtre Paul a donné une liste ici qui n'est pas exhaustive, hein, puisque chaque liste est différente. Chaque fois qu'on fait une liste de dons dans Romains, dans Éphésiens ou ici, chaque fois la liste varie un petit peu. En tout cas, ils vont avoir moins d'autorité dans l'Église que les apôtres, les prophètes et les enseignants. Une part, une position différente dans le corps de l'Église. Et j'ajouterai la part de chacun dans l'Église se situe aussi dans le temps et dans l'espace. Par rapport aux apôtres, ici il y a deux approches, deux façons de voir les choses dans l'Église, même aujourd'hui. Pour certains, il existe toujours les apôtres. Il existe toujours les apôtres, et les apôtres, ce sont les missionnaires, ce sont ceux que l'Église envoie, ce sont des implanteurs d'église. Voilà quels sont les apôtres aujourd'hui. Et donc, si les apôtres dont fait la mention ici Paul existent aujourd'hui, et donc cela signifie que les autres charismes qui suivent, les prodiges, les miracles, etc., tout le reste aussi est présent. Cela va de soi. Et l'autre approche, c'est de dire que Paul, il parle ici des prophètes, des apôtres et des prophètes fondateurs, ceux qui ne sont plus parmi nous, mais leur enseignement consigné dans la Bible continue de faire autorité. Et dans ce moment-là, dans ce cas-là, l'Église est située dans un espace-temps où il y a les premiers apôtres et puis après tous les autres frères, tous les autres membres de l'Église qui se sont joints depuis à un ensemble qui regroupe tout. Et nous, depuis les premiers apôtres jusqu'à nous. Dans ce cas-là, on peut envisager que certains charismes ou certaines dons spectaculaires qui établissaient l'autorité des apôtres aient disparu. Et dans les faits, il y a beaucoup dans l'histoire de l'Église, beaucoup de chrétiens qui ont eu un grand impact sur leur temps, mais sans s'être prétendus eux-mêmes apôtres ou prophètes. Contrairement à ce que Paul revendiquait, lui, il revendiquait son apostolat. Les dons reçus par chaque chrétien aussi nous connectent aux apôtres qui avaient ces dons-là. Et si on a reçu, si les dons que l'on reçoit nous rapprochent, nous connectent à ces apôtres du passé, font un bon lien entre eux et nous. Et ils restent pour nous des modèles à imiter. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Imitez-moi comme je suis un imitateur de Christ. Donc moi, personnellement, je pense que pour la deuxième approche, Paul parlait ici des prophètes, des apôtres fondateurs. Ceci dit, même si les fondateurs de l'Église universelle ne sont plus là, de nos jours, ceux qui sont missionnaires, ceux qui fondent les églises dans les faits, ont une grande autorité dans l'Église contemporaine, c'est certain. Je voudrais, par rapport à cette perspective d'une Église dans le temps et dans l'espace, et pas seulement une Église locale, je voudrais lire les textes d'Éphésiens, dans l'Épître aux Éphésiens, où Paul parle, c'est vrai, du corps de Christ, mais il parle aussi de l'Église comme un édifice. Donc, Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 4. Béni soit Dieu, Éphésiens 1, 3. Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Élus avant la fondation du monde. Chapitre 2, versets 19 à 22. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et au chapitre 4, versets 11 à 16. Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qu'il convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Dans ces passages, on voit que Christ et le corps de Christ est en devenir, en quelque sorte. Il est parfaitement équipé depuis les fondations jusqu'à sa plénitude. Et il comprend non seulement les chrétiens de la terre, mais aussi ceux du passé et ceux qui sont encore dans une perspective à venir. Ainsi, notre place est unique non seulement dans notre église locale, nous avons une place unique, mais nous avons aussi une place unique dans le temps et dans l'espace. Nous avons une place unique dans l'église céleste qui rassemble les chrétiens de tous les lieux, dans tous les temps. Le corps de Christ, l'église de Jésus. L'amour doit animer chaque membre. Le corps de Christ est solidement fondé et organisé, on vient de le lire, pour son développement. Et cependant, c'est seulement ce qui est fait dans l'amour qui compte. Chapitre 13, verset 1. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Parler en langue, c'est parler dans une langue étrangère des merveilles de Dieu. Alors imaginons-nous que nous sommes dans une gare où il y a beaucoup de personnes de toutes sortes que l'on croise. Et puis tout à coup, là, vous croisez une personne et voilà, vous mettez à lui parler dans une langue que vous ne comprenez pas et vous lui dites des choses que vous ne comprenez pas. Mais lui, il comprend et il est très surpris. Et il a peut-être certaines personnes qui viennent d'un pays étranger, il a un accent, et il vous dit, mais comment et où avez-vous appris ma langue? Parlez-moi encore des merveilles de Dieu. Alors, on peut s'émerveiller d'avoir un tel don. Et pourtant, si c'est sans amour, il n'y aura aucun fruit à cela. Vous savez, ça vaut pas plus que la petite musique là qui fait les annonces. Pom pom pom. Ça fait donc pom 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 là. Je sais plus comment ça fait là, les annonces SNCF. Ça m'est sorti de l'esprit. Mais l'apôtre dit un bruit, une cymbale qui retentit. Tout ça n'aura pas de fruit, ne va rien porter si c'est fait sans amour. Chapitre 2, verset 2. Si j'ai le don de la prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Imaginez-vous en train d'édifier vos frères et sœurs de la part de Dieu, d'avoir réponse à toutes leurs questions, de pouvoir faire des pronostics sur l'avenir qui sont justes, d'avoir une foi époustouflante pour enlever tous les obstacles. On pourrait s'émerveiller d'avoir les trois dons à la fois qui sont cités ici, mais si on exerce ces dons sans amour, et cela semble tout à fait possible, au moins dans l'église de Corinthe à ce moment-là, ben, le résultat, on est quand même zéro. On est zéro. On est rien. Chapitre 3, verset 3. Et si je distribue tout ce que j'ai, tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Alors on peut posséder des biens, on peut posséder une maison, imaginez-vous que vous la mettez en vente, et voilà, vous faites cadeau, vous faites des dons pour soutenir les chrétiens en Ukraine. Et vous-même, vous allez au péril de votre vie leur porter assistance aux personnes qui sont assiégées sous les bombes. Quel héroïsme, quel don de soi. Mais si c'est fait sans amour, cela ne sert à rien. Cette pure perte. Tout ce qui est fait sans amour, aussi prestigieux que cela paraisse aux yeux des hommes, n'appartient même pas au corps de Christ. C'est extérieur à lui, en quelque sorte. Ce n'est pas animé par l'Esprit Saint, c'est charnel. Et donc, à l'opposé, on peut déduire que tout ce qui est fait par amour, la moindre des petites choses qui est faite par amour, qui peut sembler insignifiante, cela, ça compte comme étant produit par le corps de Christ. Cela, c'est comptabilisé. Et le reste ne le sera pas. Dieu est amour. Nous rappelle l'apôtre Jean, 1 Jean 4, 16. Dieu est amour. Et tout ce qui est fait en dehors de l'amour est fait en dehors de Dieu. Alors, quelques applications. maintenant. Je voudrais que l'on prenne conscience de notre place unique dans l'Église céleste, l'Église qui rassemble tous les croyants de tous les temps et de tous les lieux. On a une place unique là-dedans. L'année dernière, nous avons vu l'histoire de Ruth, la Moabite, et combien cette jeune femme, comment la providence et comment ses propres choix l'ont fait entrer dans le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Son enfant allait devenir le grand-père du roi David, le grand ancêtre du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne connaissons pas l'impact que nos vies peuvent avoir dans l'histoire de l'Église, et nous ne le saurons jamais, au moins de notre vivant. Seulement, on peut être encouragé à la vivre à fond, à la vivre à fond. Les Ukrainiens ne veulent rien lâcher aux soldats russes. Et tous, ils veulent tenir leur position. Il y en a qui font des sandwichs, il y en a qui remplissent des seaux de sable, il y en a, ils font mille et une choses, ce qu'ils trouvent à leur portée. Et bien sûr, il y en a d'autres qui prennent les fusils et les armes. Ils ne veulent tous rien lâcher et chacun tient sa position, chacun fait ce qu'il est possible et selon les capacités qu'il a à son niveau. Nous aussi, tenons la position que le Seigneur nous a donnée dans notre Église. Face aux critiques, on n'a pas affaire à des bombes ni à des soldats ennemis, mais on a affaire à des critiques, on a affaire à des découragements, on a affaire à notre sentiment d'extrême faiblesse. Tenons ferme. Prenons conscience de notre position et de notre place unique dans l'Église céleste et faisons ce que le Seigneur, pour lequel le Seigneur nous a placés là dans notre Église. Des dons et des données. Jackie a une cousine au Togo et son mari s'appelle Donné. Et on lui pose, mais qu'est-ce que c'est ce nom Donné? Et il explique, ma maman m'a baptisé comme ça parce que je lui étais donné. Et il dit, moi aussi, je suis aussi donné aux autres. Je m'appelle donné. On peut penser que tout est écrit d'avance, peut-être. Dieu m'a donné tel don et voilà, c'est ma part et il faut faire avec. Comme une sorte de fatalité. Mais ce n'est pas ce qui ressort du texte. L'apôtre écrit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Et il écrira un petit peu plus loin « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes ». Un don ne nous possédera jamais et rien ne se fera contre notre volonté. On a vu que l'apôtre... surtout dans les Éphésiens, les apôtres, les prophètes, etc., ils sont présentés comme des personnes qui ont été données à l'Église. Ce sont des personnes qui ont été données. Et nous aussi, nous devons nous donner à l'Église. Il ne se passera rien si l'on ne se donne pas soi-même. Avoir des dons et se donner. Recevoir des dons et se donner. Comment trouver son don? Comment trouver sa place? Comment trouver sa position dans l'Église locale? Alors, on a une piste importante là. Le plus important, c'est l'amour. Tout ce qui est fait sans amour, si aux yeux des hommes c'est flamboyant, tout ce qui est fait sans amour n'a aucune valeur pour le Seigneur. Et donc si nous cherchons quel est notre don, laissons-nous attirer vers celui qui nous poussera le plus à aimer le Seigneur, à aimer nos frères et sœurs, à aimer nos concitoyens. Si il y a quelque chose vers lequel on sait que là on a vraiment envie de faire ça par amour pour les autres, c'est vraiment ce qui nous fait ressentir le plus d'amour. Eh ben, ce sera le meilleur des dons pour nous, celui par lequel on va le plus aimer. Voilà une piste que je vous propose pour trouver quel est mon don dans l'Église de Jésus. Quel est mon don? C'est celui-là que je vais pouvoir faire avec le plus d'amour. Alors j'arrive à la fin de ce que j'avais prévu de vous partager. Alors on a bien avancé dans ce qui concerne les dons spirituels. La semaine prochaine, l'apôtre va approfondir ce qu'est l'amour. Faire les choses par amour, d'accord? Mais c'est quoi l'amour? Les faire avec amour, d'accord? Mais c'est quoi cet amour auquel on doit aspirer et par lequel on doit servir? Donc c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Je vais prier, puis après, j'ai prévu un chant pour nous, ou deux. Seigneur notre Père Céleste, merci pour ce plan merveilleux dans lequel tu as prévu pour chacun d'entre nous. Ça dépasse complètement notre entendement depuis, avant même que nous soyons créés, depuis toute éternité, tu avais déjà préparé la place dans l'Église. Et les dons que tu nous accorderais et ce que tu nous permettrais de vivre pour toi et par amour pour nos frères et nos sœurs. Merci Seigneur pour cette Église qui est incomparable. Et merci de savoir que la vie est dans l'amour. Et Seigneur, merci de cette chose extraordinaire qui change et qui bouleverse toute la perspective qu'on peut avoir de ce qu'est le service ou de ce qu'est être quelque chose ou pas aux yeux des hommes et à tes yeux. Bénis notre Église, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous, permets-nous à chacun de trouver notre place et de la vivre pleinement, de vivre pleinement cette vie que tu as préparée pour nous de toute éternité, d'entrer pleinement dans le Dieu, dans le plan que tu as prévu pour nous, et de servir et de contribuer au bien commun selon tout ce que tu as prévu. Seigneur, tu nous accordes cette place et tu veux faire les choses avec nous. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci également pour tous nos frères et sœurs, merci pour tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, merci pour toute cette grande famille auquel tu nous rattaches, nous qui ne sommes rien. Par Jésus, Amen.